La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission La prédication protestante. Je suis Florence Vanquali, pasteur de l'Église évangélique libre de Toulouse. Et j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui des personnes que nous accueillons dans l'Église. A priori, qui est bienvenu à l'Église ? Tout le monde, vous me direz, tout le monde, bien sûr. Hein, nous voulons accueillir chaleureusement tous ceux qui s'approchent de Dieu, parce que Dieu lui-même les accueille chaleureusement. Oui, tout le monde est le bienvenu. Enfin, nous avons quand même des limites. Tout le monde peut entrer, oui, mais certains vont nous faire tiquer. Ça peut être un motard avec de gros tatouages et une boucle d'oreille qui entre dans l'église. Un couple d'hommes. Quelqu'un qui sent l'alcool à plein nez. Ou encore une femme qui serait plus à sa place dans une boîte de nuit. Alors je ne les mets pas tous dans le même panier, hein. Je parle juste de ce qui nous fait tiquer. Parce qu'on a des limites. Ceux qui sont différents de nous nous interpellent, ils accrochent notre regard. Ils suscitent en nous, au minimum des questions, au maximum des jugements. Et pour ça, pas besoin d'être à l'église, c'est déjà vrai dans le métro. Involontairement, nous scannons ceux qui nous entourent. Acceptable ou pas acceptable ? Il est comme moi ou il est différent ? Mais à l'église en plus, nous sommes rassemblés autour du Dieu saint, c'est-à-dire d'un Dieu parfait, juste, intègre, d'une pureté morale éclatante. Alors ceux qui nous choquent, on se dit qu'ils doivent aussi choquer Dieu. Est-ce que vous voulez faire un petit test sur nos limites ? Est-ce que vous seriez prêt à inviter dans votre église, sans craindre les regards qu'on va porter sur eux, n'importe lequel de vos collègues, de vos voisins, de vos amis. Vous savez, votre cousin éloigné, celui dont on ne parle plus sans hausser les sourcils. Imaginez que ces visiteurs différents viennent. Et pire, qu'ils n'aient même pas la décence de faire profil bas pendant le culte ou la messe. Imaginez qu'ils prient à voix haute pendant un temps de silence. Imaginez qu'ils s'avancent pour distribuer la scène ou l'Eucharistie, qu'ils se lèvent au milieu de la prédication pour répondre et pour dire quelle est leur vision de Dieu, ou alors qu'ils se jettent en pleurs au pied de la croix pendant un chant. Rien de mortel, mais on serait nombreux à se trémousser sur notre chaise. Plus que nous le voudrions, plus que nous ne l'avouons, nous sommes prompts à nous choquer. Et nous ne sommes pas les seuls, ni les premiers. Dans son évangile, Luc nous plonge au cœur d'un repas au parfum de scandale que je vous invite à écouter maintenant. C'est au chapitre 7 de l'évangile de Luc, les versets 36 à 50. Un pharisien, c'est-à-dire un religieux juif de l'époque de Jésus, un croyant bien sous tout rapport, connu pour sa foi, son engagement avec Dieu, son désir de vivre le plus possible comme Dieu le voudrait. Donc un pharisien invita Jésus à prendre un repas chez lui. Jésus se rendit chez cet homme et il se mit à table. Entre parenthèses, c'était sûrement un grand repas, comme on pourrait organiser une soirée chez soi avec un invité d'honneur, évidemment hors Covid. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre, un genre de marbre fin qui était assez cher, plein de parfums. Et elle se tint derrière Jésus, à ses pieds. Imaginez Jésus à la mode romaine, couché sur le côté, la table étant en U. Cette femme pleurait et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si vraiment cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisien : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit : « Parle, maître. » Et Jésus dit : « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. » L'un lui devait 500 pièces d'argent, environ 2 ans de salaire, disons 25 000 euros, et l'autre lui en devait 50, environ 2 mois de salaire, disons 2 000, 2 500 euros. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, le prêteur leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Oui, tu as raison. » Alors il se tourna vers la femme et il dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Va, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Simon le pharisien est choqué, mais il ne sait pas qui le choque le plus. Est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est Jésus ? Cette femme, on ne sait pas qui elle est, elle restera anonyme. Mais sa réputation la précède et ça se voit dans son style, son maquillage, sa façon de se tenir. Dès qu'elle arrive dans la pièce, elle est cataloguée. Cette femme, Simon accepte qu'elle vienne écouter Jésus. Mais bon, ce serait bien qu'elle tienne son rang et qu'elle reste dans un coin ou près du couloir. Mais non, elle a l'audace de venir au milieu de la pièce, juste derrière l'invité d'honneur, et de se mettre à faire son cinéma. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce genre de femme ? Elle sanglote, elle est prostrée aux pieds de Jésus, tous les regards sont braqués sur elle. Elle essuie les pieds avec ses cheveux, elle les parfume. Non mais ça devient même ambigu, c'est comme si elle s'était mise à masser Jésus, à lui embrasser la nuque, les joues. C'est inconvenant. Et puis le parfum. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est du parfum qui coûte très cher, du parfum pur. Alors bien sûr, tout dépend de la taille du flacon, mais ça pouvait représenter jusqu'à 1 an de travail d'un ouvrier. Cette femme, on ne sait pas comment elle a gagné l'argent pour s'acheter le parfum. En tout cas, ça vaut très cher. Et elle le vide pour parfumer les pieds de Jésus. Maintenant, non seulement on la voit, mais en plus on la sent. On sent qu'elle est là. Et Jésus, dans tout ça, qui reste impassible, comme s'il n'y avait rien de gênant. Simon est choqué, sûrement déçu. On disait tant de bien de Jésus, de ses discours, de ses conférences théologiques, de ses sermons. Et Simon a invité Jésus pour en savoir plus. Mais finalement, ce Jésus n'a pas l'air de valoir grand-chose, puisqu'il tolère ce genre d'inconvenance. Avec une bonne dose d'ironie prophétique, Jésus interpelle Simon. Non pas sur la femme, qu'il a très bien cernée, mais sur les pensées du pharisien. Jusque-là, on a le focus sur 2 personnages, chacun avec son étiquette. On a d'un côté la femme sulfureuse et de l'autre côté le religieux bien-pensant. Mais pour Jésus, ce n'est pas juste un pharisien, une femme pécheresse. C'est Simon, c'est 7 femmes. Avec leur parcours, leurs attentes, leurs questions, leur personnalité, leur déception. Jésus ne s'arrête pas aux apparences ni aux catégories, mais il regarde à la personne. Et pour faire comprendre ça à Simon, il va raconter une histoire. Il parle de 2 dettes, 2 hommes dans la panade, et un prêteur généreux qui efface l'ardoise. Vu sa position sociale, Simon devait sûrement lui-même prêter de l'argent à différentes personnes. À l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc Simon devait très bien comprendre de quoi parlait Jésus. Si un jour il en venait à effacer de telles dettes, mais il regarde autour de lui en espérant que personne dans la salle ne va se faire des idées, eh bien il attendrait une belle dose de reconnaissance. Et plus la dette est grande, plus on attend de gratitude. C'est logique. Avec cette parabole sur l'argent, Jésus parle du cœur de l'Évangile. Nous devons tous quelque chose à Dieu. Notre naissance, notre souffle, notre vie, ça vient de lui, c'est à lui. Et dès que nous abîmons ou que nous dégradons notre vie, notre corps, nos pensées, l'autre, notre monde, nous sommes en dette. Dès que nous nous comportons même en propriétaire, comme si Dieu n'existait pas, nous sommes en dette. Le problème de Simon, c'est qu'il est rentré dans le calcul. Lui, il pense qu'il n'a pas beaucoup de dettes envers Dieu. Bah, c'est vrai, il ne ment pas, il ne jure pas, il ne se saoule pas, il travaille honnêtement, il est fidèle à sa femme, il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Mais elle, là, cette femme, on ne sait pas jusqu'où elle est allée, quel fond sordide elle a touché. Quand même, devant Dieu, ce n'est pas pareil. Et c'est là que Jésus est choquant. Même si l'histoire ne se concentre pas sur ça, il faut le rappeler, Dieu efface les deux dettes, les deux. Aucune dette n'est si grosse que Dieu ne puisse l'annuler. Et comment il le fait ? Eh bien, il paie lui-même la dette en la personne de Jésus, Jésus au compte en justice bien rempli, qui vide ses caisses pour payer nos factures, qui se donne lui-même pour nous permettre de vivre. Jésus plus tard se tourne vers la femme. Tes dettes sont effacées, tes fautes sordides sont lavées, relève la tête, car Dieu te regarde avec amour et fierté. Cette femme l'a compris. Sa réaction inconvenante, scandaleuse, pas spécialement recommandable, c'est la réaction au scandale du salut, au scandale du pardon. À travers Jésus, elle découvre un Dieu qui a tout pour juger, mais qui choisit de pardonner. Non mais nulle part on ne voit ça. La vie ne fait pas de cadeaux. Eh bien, Dieu, lui, fait des cadeaux. Le cadeau d'une vie nouvelle. La femme n'en sait pas plus. Elle connaît à peine Jésus, elle a peut-être juste entendu une bribe de ses discours. Mais elle a compris que Jésus parle d'un Dieu d'amour, alors elle donne tout, tout ce qu'elle a de précieux. Mais Jésus n'est pas satisfait. Il veut que Simon comprenne qui Dieu est. Il veut renverser ses petits calculs. Il n'est pas en train de dire que tout se vaut, que rien n'est grave, ou qu'on peut détruire notre vie ou notre monde sans scrupules. Mais si on veut parler de ce qui choque Dieu, ce n'est pas la reconnaissance maladroite de cette femme, non. C'est Simon qui choque Dieu. Occupé à regarder les autres pour se rassurer sur son statut de croyant modèle. Occupé à compter les points vers la pureté, à franchir les marches de son escalier spirituel. Simon en est venu à penser que, finalement, lui, c'est un bon. Il n'a pas vraiment besoin de pardon. Jésus est choqué dans cette histoire. Finalement, c'est peut-être lui qui est le plus choqué. Et ce qui le choque, eh bien, c'est le cœur endurci de Simon, qui se moque de voir quelqu'un retrouver l'espoir, retrouver un sens à sa vie, tellement il est coincé dans ses règles et ses principes. Simon a oublié que Dieu est un Dieu très particulier. C'est le Dieu de la vie nouvelle, une vie qui jaillit de façon parfois étonnante et chaotique. Dans sa vie bien rangée, il n'y a plus de place pour les surprises de Dieu, pour les révolutions, les irruptions de la vie avec Dieu, pour l'amour même de Dieu. Mais l'amour de Dieu nous dérange, nous bouscule, parce que Dieu vient appeler mon fils, ma fille, des personnes avec qui parfois nous, on ne voudrait même pas prendre un café. Mais pour Dieu, tout le monde est hors limite. Pourtant, il choisit d'ouvrir les bras pour accueillir ceux qui se tournent vers lui sur un seul critère, la confiance, la foi, le désir de laisser Dieu transformer sa vie pour en faire une vie belle et bienfaisante. Je ne vais pas parler de tolérance, ce mot à la mode qu'on se balance à la figure au moindre désaccord, parce que Jésus n'était pas particulièrement tolérant. En fait, il n'était absolument pas dupe de nos histoires sordides, de nos recoins secrets et obscurs, de nos chaos sentimentaux, caractériels, financiers, etc. Mais Jésus s'est donné pour nous dans nos chaos, pour nous en libérer et pour nous faire une place auprès de Dieu. Alors, pour revenir à nos limites, mais ça va plus loin que ça, Jésus nous appelle à regarder au-delà des étiquettes, à nous laisser déranger par le potentiel de ceux qui sont percutés par le pardon de Dieu, à élargir notre cœur en aimant comme Dieu. Il nous appelle à accueillir l'autre avec ses chaos, ses tentatives, ses maladresses, pas pour les cautionner, hein, mais parce que Dieu nous travaille au milieu du chaos de notre vie. Si vous ne me croyez pas, eh bien relisez votre Bible et comptez les gens proches de Dieu dont la vie était bien comme il faut. Il y en a, mais pas beaucoup, hein. Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait 10. Le remède pour nous, c'est le même que pour Simon. Sans cesse recentrer notre regard sur Dieu, sur le prêteur qui efface les dettes, toutes les dettes. Et personne d'entre nous ne pourrait prétendre avoir une petite dette. Dieu, oui, il est saint, et pourtant, il m'aime, il vous aime. C'est incroyable. Il nous appelle son ami, son enfant. C'est presque scandaleux. S'il nous a fait une place dans sa vie alors que nous n'en valions pas la peine, alors il y a une place pour les autres aussi. Revenir sans cesse à Dieu, redécouvrir sans cesse les dimensions scandaleuses de son pardon, le potentiel incroyable, presque dérangeant, d'une vie avec lui, c'est la base de ce que Dieu attend de nous, la base de notre amour pour lui, la base de notre amour pour les autres. Ô Dieu, par Jésus, tu nous invites à nous laisser déranger par ton amour. Nous sommes tous sur des chemins différents, certains plus comme Simon, d'autres plus comme cette femme. Mais nous avons tous le même besoin, plonger ou replonger à la source de ton pardon, dans cette grâce infinie, surabondante, qui transfigure notre vie. Tu as enlevé notre honte, tu nous as relevé la tête. Donne-nous de rester toujours stupéfaits de ton œuvre en Jésus et donne-nous de te répondre, à l'exemple de cette femme, avec la reconnaissance et l'amour que tu mérites. Amen.
Of a loving God, you gave me the hands to extend the love you bore me from. So take my hands and use them, take my trembling knees. My every breath is borrowed, take it and use it as you please. Be like you, I wanna be like.